Épître de Jacques. Épître de Jacques, où nous allons poursuivre sur le thème de la maturité. Ça fait un petit moment que nous ne sommes plus allés dans cette épître. Et nous voulons donc ce matin reprendre un petit peu notre fil. L'épître de Jacques, l'épître de la maturité. Voilà une épître. Si on veut être un enfant de Dieu, un chrétien ancré, ferme, fort, victorieux, joyeux, bref, pleinement épanoui dans le Seigneur, eh bien, mettons en œuvre ce que cette épître nous dit, les points qu'elle montre pour être, ainsi qu'elle l'exprime au chapitre 1 et au verset 4, à la fin du verset 4, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors évidemment, le premier point que Jacques attaque concerne les difficultés de la vie, les épreuves, les afflictions, la souffrance qui est due aux événements ou aux personnes à qui nous avons affaire. Et dans ces circonstances difficiles, douloureuses, peut-être conflictuelles, eh bien, la maturité porte un regard que seul Dieu peut nous faire porter, considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui peuvent survenir. Il n'y a que la foi qui a ce regard sur les épreuves et qui peut faire germer, pousser et fructifier en nous une patience qui va jusqu'au bout, sans court-circuiter l'œuvre de Dieu au travers de l'épreuve. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, toucher la question du péché. Une maturité, cesser d'être immature à l'égard du péché. Troisième point consistait à être mûr à l'égard de la parole de Dieu. La place de la parole de Dieu dans nos vies. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez la parole en pratique. Et je disais que dans le fruit de cet épître de Jacques, si on le met en œuvre, je disais même, oui, être un chrétien joyeux, heureux, c'est exactement ce que nous dit le verset 25. Celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen.
Amen.
Ouais. Et puis nous avons vu la maturité à l'égard de la loi royale de l'amour. Ça, on a besoin vraiment de progresser parce que Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et en particulier, dans ce chapitre 2, Jacques invite à un amour qui ne discrimine pas, qui ne fait pas de différence, qui n'est pas en train de peser d'un point de vue peut-être ici social et de fortune, mais il y a d'autres critères où on va, dans nos relations, s'attacher, privilégier certaines personnes et puis en mépriser, en mettre de côté d'autres. Le Seigneur nous demande d'avoir un amour mûr qui ne met pas de côté autrui. Et puis, nous arrivons aujourd'hui au verset 14 et nous allons lire Jacques chapitre 2 du verset 14 au verset 26. Ici, il commence une section où la maturité du chrétien se traduit en actes. On verra sur le chapitre 3 à propos de notre langue, par exemple. Il continuera sur d'autres thématiques au chapitre 4, etc. Mais ici, de manière générale, l'apôtre va nous dire, écoutez, la maturité d'un chrétien, elle se voit dans ses actes, dans ses œuvres. Et l'immaturité d'un chrétien se voit également dans ses œuvres. Jésus avait dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et Jacques ici va être assez incisif quant au rapport très direct qu'il y a entre la foi et des œuvres qui sont selon Dieu. Alors, lisons ensemble. Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Voilà Jacques qui veut mettre les choses au clair. Il veut mettre les choses au clair à propos de personnes qui auraient une croyance en Dieu, une certaine foi, et selon leur origine culturelle, identitaire, ça peut tout à fait se tourner sur une foi, et je mets des guillemets, chrétienne, et penser que ainsi, ils sont dans la vérité, ils sont en règle avec Dieu, et que tout va bien pour eux, le ciel les attend. Et là, Jacques va, par l'Esprit de Dieu, frapper un grand coup dans cette tradition un petit peu mensongère et destructrice qui est cette notion, si je peux l'appeler ainsi, du croyant non pratiquant. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Nous pourrions rajouter, je suis croyant, mais peu, très peu pratiquant. Et il commence à prendre un exemple pour montrer le non-sens de se dire croyant, mais pas ou peu pratiquant. Ce qu'il appelle avoir la foi, mais pas d'œuvre. J'ai la foi, mais bon, j'ai pas d'œuvre vraiment qui reflète la foi en Jésus-Christ que je prétends avoir. J'ai pas de fruit. Il dit, mais ça, c'est un non-sens de croire que cette foi absente d'œuvre est une foi qui sauve. Et l'exemple qu'il prend est directement lié au passage précédent qui touchait à la loi royale de l'amour. Aimer son prochain. Et l'exemple qu'il prend est celui de la générosité à l'égard de personnes démunies. Effectivement, l'amour, c'est de chercher l'intérêt de l'autre et de s'inquiéter de l'autre et d'aller vers son prochain. Et il dit, ben oui, alors si tu vois qu'un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour. Voilà une situation où un frère ou une sœur est matériellement démuni. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il dit, voilà, imagine que tu ailles les voir et puis tu les entoures de belles paroles. Tu peux leur dire que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne, il va pourvoir, compte sur lui et la foi. Et puis, on termine en disant, allez, en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous. Bon. Il dit, mais par contre, tu ne sors rien de ton portefeuille. Tu ne leur donnes pas ce qui est nécessaire. Tu leur dis, tu vois qu'ils sont sans nourriture et mal vêtus. Tu leur dis, allez-y, hein, mangez bien, et puis surtout, profitez-en. Hein. Et puis, tes poches restent fermées. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il est en train de nous dire le non-sens et l'absurdité de se prétendre et de se croire quelqu'un de généreux, mais non pratiquant. Là, dans ce texte, il nous dit, c'est comme si on disait, moi, vous savez, je suis généreux, mais je suis un généreux non pratiquant. Et, non, mais dans mon cœur, vraiment, hein, je suis généreux. Mais je suis non pratiquant. Et là, vous dites, oh, celui-là, il n'est pas bien dans sa tête, quoi. Quel hypocrite. Comment est-ce qu'on peut être un généreux non pratiquant? Ça ne va pas ensemble. Si profondément dans ton cœur est ouvert aux autres et veut donner, veut pourvoir, est sensible à la souffrance et aux besoins qui sont autour, c'est ça la générosité, que tu es prêt à donner si tu peux donner. Alors, cette générosité, de manière naturelle, va se traduire en actes et en dons. Et il dit, mais là, c'est, tu vois, quand tu dis que tu as la foi sans les œuvres, c'est pareil que si tu dis, je suis un généreux non pratiquant. En d'autres termes, c'est un gros radin, avec un cœur dur comme la pierre qui n'ouvre pas ses poches. Mais qui se prétend à lui-même, parce que c'est une, les autres ne sont pas dupes. Hein. Vous savez, vous avez affaire à un généreux non pratiquant, en un ou deux coups, vous avez repéré le gars. Hein. Mais pour lui-même, il s'illusionne lui-même en se croyant vraiment quelqu'un de bon, de bien, de généreux, qui est attentif à autrui. On dit, ah ouais, tu crois, ok, tu es attentif à autrui, tu es... Alors, à quand remonte le dernier don que tu as fait à une association caritative? À quand remonte la dernière fois que tu as donné à un mendiant? À quand remonte la dernière fois où tu as vu quelqu'un dans ton entourage être en difficulté et tu as payé le toi-même? Ouh là là, ben je ne sais pas trop, non, mais là on n'est pas en train de discuter sur les œuvres, on est en train de discuter sur le principe général de la générosité. C'est un petit peu ça, dit Jacques, quand on est en train d'essayer de discuter de la croyance en Dieu, en Jésus-Christ, dans le salut, dans discuter sur le fait qu'en tant qu'être humain, on peut croire en Dieu et être en règle avec lui, mais qu'à côté de ça, eh bien, il n'y a absolument pas de fruit qui résulte de cette prétendue croyance. Il n'y a pas de fruit digne de la repentance, il n'y a pas de vie qui se nettoie du péché, c'est la sanctification, il n'y a pas de vie qui cherche vraiment à connaître, à dialoguer, à parler avec Dieu dans une relation vivante et vraie. Il n'y a pas une vie qui se soumet à la volonté de Dieu, mais plutôt une vie qui est vécue selon son propre désir. Je vis ma vie comme je l'entends. Jacques ici nous dit, écoute, croire sans pratiquer, d'abord, c'est du non-sens. C'est comme si tu es malade, tu vas chez le médecin, tu te fais prescrire un médicament qui peut te guérir, et puis tu ne le prends pas. Tu dis, mais tu as confiance dans ce médecin, tu as confiance dans ce médicament? Oui, mais moi je suis un croyant non pratiquant. Je suis chez le médecin, il me fait prescrire les trucs, mais je ne les prends pas, c'est parce que c'est comme ça dans ma vie, je suis un croyant non pratiquant. Alors, ici, il nous dit, mais tu sais qu'il est absolument possible de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, et de quand même finir en enfer, de quand même ne pas être réconcilié avec Dieu. Et il dit... Tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu, au verset 19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ben c'est bien, c'est vrai, c'est juste, ta croyance et ce que tu verbalises est tout à fait adapté et juste. Mais les démons aussi, ils ont conscience, ils croient en l'unicité de Dieu, en son existence, en sa personne, mais ils ne sont pas réconciliés avec lui, et ils tremblent. Et il dit, voilà, fais attention de ne pas être quelqu'un qui a une foi en Dieu, on croit, moi je crois, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Comment ça te transforme? Qu'est-ce que ça met en œuvre dans ton existence et qui est ajusté avec Dieu? Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Et on peut continuer dans les caractéristiques de Dieu et se dire, tiens, est-ce que toutes ces caractéristiques, j'ai souci et j'ai à cœur qu'elles germent dans ma vie. Il dit, mais si c'est pas le cas, si finalement tu vis ta vie juste comme tu l'entends, sans que ta foi en Dieu n'impacte ton existence, eh bien, ta foi, elle est vaine. Ta foi, elle est morte. Et le verset 17 est sévère à cet égard. Il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et le verset 14, ce qui introduisait, insiste en disant, ben, quelqu'un qui dit qu'il a la foi mais il n'a pas d'œuvre, cette foi peut-elle le sauver? Et la réponse induite ici est évidemment négative. Non, cette foi ne peut pas le sauver. Ce qui sauve, c'est une foi vivante et donc agissante. C'est la foi qu'on voit en Abraham et à propos de laquelle, au verset 22, une expression nous est donnée. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La vraie foi en Dieu qui sauve est une foi fructueuse, est une foi agissante. De la même manière qu'un cœur généreux et qu'une personne généreuse, ça va forcément induire des actes de générosité, parce qu'on ne peut pas être un généreux non pratiquant. Il dit de la même manière, la foi, la vraie foi qui sauve, c'est celle qui agit avec des œuvres dignes de Dieu. Alors, il existe effectivement deux types de foi. Il y a la vraie foi qui sauve et la vraie foi qui ne sauve pas. La vraie foi qui sauve est celle qui s'accompagne, qui agit avec des œuvres. Et puis la vraie foi qui ne sauve pas, c'est celle qui est solitaire, infructueuse, une foi peut-être intellectuelle, sentimentale, émotionnelle, philosophique, que sais-je. En tout cas, elle demeure stérile. Elle ne produit rien. Mais c'est quand même une vraie foi, du même type que celle des démons du verset 19. Nous, on a souvent tendance à scinder un petit peu entre ceux qui croient et ceux qui croient rien, ceux qui croient pas. Là, dans ce texte, Jacques veut secouer un petit peu l'Église. Fais attention. La séparation entre dire juste, bon, il y a ceux qui croient rien, qui croient pas, qui sont opposés à la foi en Jésus-Christ, qui n'y adhèrent pas, et puis ceux qui disent, si, si, moi, je suis candidat, je crois. C'est pas suffisant. Faites attention. Ne soyez pas installés dans une fausse conviction d'être en règle avec Dieu alors que vous ne l'êtes pas. Et y compris dans les églises évangéliques, il peut y avoir parmi nous, l'un ou l'autre, qui croit à l'existence de Dieu, qui croit que Jésus-Christ est venu pour lui pardonner ses péchés, etc., qui dit manifestement, oui, ça, moi, c'est OK, ça me convient, ça, c'est, j'adhère bien. Ouais. Et puis, ça reste Ça en reste là, ça reste stérile, ça ne se traduit pas par de l'amour pour la parole de Dieu, ça ne se traduit pas par de l'amour pour les frères et sœurs, ça ne se traduit pas par une remise en question de soi pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Finalement, ça se traduit par rien. On peut être quelqu'un de bien. Il y a plein de gens bien. Il y a des gens bien qui ne croient en rien. Puis il y a des gens bien qui croient en Dieu. Et qui se contentent d'être des gens bien qui croient en Dieu. Mais qui ne sont pas des vrais disciples de Jésus-Christ. Et Jacques, là, s'adresse à l'Église en disant, remettez-vous en question, cherchez au-dedans de vous-même, où est-ce que vous en êtes? Alors, il n'y a pas que l'aspect sauvé ou perdu ici. Et c'est pour ça que j'ai rajouté tout à l'heure, on peut être un croyant non pratiquant ou un croyant peu pratiquant. Et parce qu'on parle de la maturité du chrétien, ici, quelque part, Jacques secoue un petit peu en disant où est-ce que vous en êtes dans votre maturité. Parce que le fait d'être sauvé ne se résume pas à dire, tiens, je suis vraiment réconcilié avec Dieu, sauvé, ou alors totalement perdu. La parole de Dieu nous montre que notre salut est un processus aussi en marche, et d'y travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Il dit, voilà, ok, le Seigneur vous a sauvé, vous êtes réconcilié avec Dieu, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez être sauvé comme au travers du feu? Avec quel matériau est-ce que vous allez bâtir, c'est l'épître aux Corinthiens, sur ce fondement qu'est Jésus-Christ? Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu t'es mis en règle avec lui, et ça c'est authentique, ça c'est vrai. Ok. Et après? Après, est-ce que tu demeures un chrétien peu pratiquant? Qu'est-ce que tu construis sur ce fondement qu'est Jésus-Christ dans ta vie? Comment est-ce que tu travailles à ce salut que Jésus-Christ a payé par son sang? Est-ce que ça reste un petit peu une foi un peu solitaire qui s'accompagne de peu, de très peu d'œuvres? Que Dieu souhaite dans notre vie. Ailleurs, il nous est dit que Dieu, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous situez ce verset? Je le répète, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, il y a tout un programme où on dit, mais ok, pour ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que tu les pratiques, t'en es où? Est-ce que tu stagnes? Est-ce que tu restes à ton démarrage? Et la maturité se traduit en actes. Et je le disais tout à l'heure, l'immaturité aussi. Une immaturité spirituelle en Jésus-Christ se traduit par des actes, une manière de vivre complètement immature, où on voit bien que les choix de vie, les décisions, la manière de vivre, les relations qu'on a, on peut gratter, on peut chercher. il n'y a pas grand-chose qui cherche la gloire de Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait grandir. Il n'y a pas grand-chose qui a de la valeur. Quand le Seigneur évaluera ses œuvres et les fera passer au travers du feu, est-ce qu'elles vont se consumer comme le papier, la paille, le chaume, le foin, nous dit l'Épître, ou est-ce que ça va passer l'épreuve du feu? Parce que ce sont des matériaux nobles et précieux dont nous avons constitué nos jours, nos semaines, nos mois, nos années. Une foi mûre produit de bonnes œuvres. Un chrétien rempli de l'esprit produit le fruit de l'esprit. Un amour zélé pour Dieu se concrétise par un service zélé pour lui. Si mon cœur bout pour le Seigneur, je vais courir pour le servir. Si le Saint-Esprit, je veille à m'en remplir plutôt que de me remplir de tout un tas d'autres choses, l'alcool n'étant pas l'exclusivité du passage, ce dont je me remplis, eh bien, si je me remplis du Saint-Esprit, il ne pourra pas en être autrement que de produire le fruit de l'Esprit. Si mon action pour Dieu est pauvre, c'est que mon intérieur pour Dieu est pauvre. Si mon action pour Dieu est malade, c'est que mon intérieur est malade. Et on peut terminer en disant, si mes œuvres sont malades, c'est que j'ai la foi malade. Pas le foie ça arrive aussi, mais c'est moins grave en fait. C'est l'alcool. Mais c'est moins grave d'avoir le foie malade que la foi malade. Je crois que nous avons besoin de réaliser cela. Passons-nous devant le Seigneur, réfléchissons, est-ce que mes œuvres pour Dieu, ma manière de vivre, ce que je produis dans ma vie, dans tous les domaines, dans mon couple, chez mes enfants, au travail, ça glorifie Dieu? C'est des matériaux de valeur qui sont posés ou est-ce que n'importe quel incroyant à côté de moi, mais quelqu'un de bien, pose plus ou moins les mêmes œuvres. Si l'on se rend compte que nos œuvres sont malades, passons-nous devant le Seigneur et avec honnêteté, disons-lui, Seigneur, je vois bien que je déduis que ma foi est malade parce que je vois bien que dans ma vie, ma manière de vivre, elle est pauvre. Et je veux que tu m'enrichisses, je veux que tu me guérisses, je veux m'attacher à toi, je veux grandir, je veux mûrir pour vivre pleinement à ta gloire. Parce que la foi agit avec ses œuvres. Une foi malade agira avec des œuvres malades. Une foi pauvre agira avec des œuvres pauvres. Une vraie fausse foi agira juste avec des œuvres du monde, sans œuvres de Dieu. Il n'est pas question ici de perte du salut. Des fois, on se dit, mais est-ce que je peux perdre mon salut? Ce texte nous montre, non, tu peux avoir une vraie foi, mais pas de la nature de celle qui sauve. Jésus disait aussi, dans la parabole du semeur, ceux qui croient pour un temps. Mais qui ne sont pas la bonne terre. Et ces textes sont là pour que nous ne nous endormions pas, reposions pas dans une fausse certitude, mais pour qu'on puisse examiner soi-même Et Paul le disait, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors que chacun puisse se poser la question, d'abord, est-ce que je suis un vrai disciple de Jésus-Christ ou est-ce que je me suis approché de Jésus, de l'Église et tout ça? Mais pas jusqu'au bout. Peut-être par préférence culturelle, identitaire, parce que d'autres autour de moi l'ont fait. Comme tant en France de ceux qui nous entourent et qui sont simplement catholiques parce que leur famille est catholique de génération en génération. Il y a une certaine foi, mais plus identitaire, au niveau, une identité d'en bas, pas une identité d'en haut. Alors le Seigneur veut que notre foi en lui soit profondément une identité d'en haut. Et nous avons besoin de nous interroger. Et ça, je crois que c'est un des points majeurs chez le chrétien. Un chrétien qui veut grandir, un chrétien qui veut aller loin, ce doit être quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Systématiquement. Quand on ne se remet pas en question, on n'avance pas. Remettons-nous en question. Et puis, en nous remettant en question, agissons selon ce que notre remise en question, cet examen, à l'aide du Saint-Esprit, nous montre. David, depuis longtemps, disait dans son psaume où il dit « Regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, une voie chagrine, un truc qui construit pas la vraie joie et l'épanouissement d'un enfant de Dieu ancré et solide. » Et il dit « Si c'est le cas, regarde en moi, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde s'il y a un truc tordu là. Et si c'est le cas, alors je veux que tu me conduises hors de ce sentier tordu pour marcher droit avec toi. » Prions. Seigneur, on veut s'interroger. Ne pas être dans une routine de vie chrétienne. Et peut-être même une pseudo-routine où nous croyons être en règle avec toi alors que nous, si l'on regarde en arrière, il y a zéro œuvre qui montre une vraie conversion, une vraie métanoïa, une transformation par ton esprit dans notre vie. Seigneur, si c'est le cas, et si ce matin quelqu'un, en réfléchissant, se dit « Mais finalement, je ne suis pas bien sûr d'être sauvé, je crois en Dieu, en Jésus, mais ça ne change strictement rien dans ma vie. Si je suis honnête, je dois le dire. » Seigneur, s'il y a quelqu'un comme ça ce matin, je te prie de tourner son cœur pour qu'il se donne à toi entièrement et qu'il te suive. Pour une foi qui produise des œuvres, une foi qui agisse avec des œuvres selon toi. Et puis, Seigneur, si nous savons que oui, nous nous sommes réconciliés avec toi, il y a eu des œuvres selon toi, et il y en a. Mais peut-être avec un amour qui s'est refroidi. Peut-être une vie chrétienne qui est devenue tiède et presque froide. Alors, Seigneur, pousse nos cœurs à nous remettre en question pour une foi vivante et fructueuse. pleinement fructueuse. Seigneur, tu vois que nous voulons souvent accuser d'autres que nous-mêmes de notre tiédeur. C'est peut-être l'Église qui n'est pas assez dynamique, c'est peut-être mon conjoint, c'est peut-être des frères et sœurs dans l'Église qui sont pénibles, c'est peut-être le poids de mon passé. Seigneur, tu veux que nous décollions tout ça pour avancer à vitesse grand V dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour qu'on les pratique, sans tarder. Seigneur, que ton esprit agisse en nous pour nous rendre des frères et sœurs dont la foi est vivante et agissante. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen.